Les blind tests de Point Break.
Allô, Guiluc, Guy, oui. Je vous demande infiniment pardon, Guy.
Oui.
Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens.
Ici, on colle des œillères à la fine fleur de la musique. Épisode 2, Anthony Bellevra, Elliot McLucky et Jules Buisson d'Akov, des Diamond Dogs, rencontrés en avril 2023 à l'occasion de la sortie de leur premier album, Usual Chronicles.
Hello.
Dépêche Mode.
Je crois premier degré, je crois que c'est mon morceau préféré de Dépêche Mode.
Peut-être pas moi, mais celui-ci. J'adore le clip.
Ouais, le clip incroyable.
Le clip avec la voiture qui
c'est une voiture
qui recule, c'est ça.
Ouais. Ouais. Le mec est attaché dedans. Spoiler, le mec est attaché dedans.
Mais l'intro, elle est folle, ouais, avec les voix doublées là.
Ouais.
Moi, quand on fait les doublages. Avec toi, Elliot, je pense souvent à cette texture de voix là, avec juste, pas forcément beaucoup harmonisé, mais juste voix aiguë, voix grave à l'octave en dessous. Des fois, quand on faisait le disque, je pensais pas mal à ce morceau-là. Je me disais juste, ça donnait de l'épaisseur.
Ouais, puis on dirait qu'ils empilent un petit peu les voix.
Ouais, il y en a peut-être plusieurs
empilées. Mais... une voix. Mais dans le principe, ouais. Belle entrée en matière.
Noirdaise ?
Ouais.
C'est ça,
ouais. Ouais.
J'ai jamais eu ma grosse période Noirdaise.
J'ai grandi en écoutant Noirdaise. Mes parents étaient très 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 fans avant les événements. Pointilleux comme sujet. Mmh.
Mais il y a quand même des visages, des figures, je trouve, qui est assez... on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, je crois.
Les arrangements et tout.
Pour moi, il avait pas vieilli, il a pas pris une ride, cet album.
C'est assez intemporel comme truc.
Ouais. Mais parce qu'il y a du monde dessus aussi, quoi.
Ouais.
Il y a Romain Humeau qui a fait plein d'arrangements.
J'aime bien dans cet album l'idée de pas forcément rester sur un truc qui est faisable ou pas en live.
Ouais.
Vraiment juste essayer de faire des arrangements, des trucs qui vont avoir de la gueule sur album.
Ouais.
Quitte à réarranger complètement derrière pour le live, mais ça rend le truc assez unique.
C'est exactement ce qu'on était en train de se dire juste avant.
Ouais, juste devant Radio Campus avant de.
Pour le prochain album.
J'étais pas là.
J'étais en train de dire que je commençais déjà à triturer des boucles de trucs qui n'ont absolument rien de musical pour en faire un truc musical. C'est
du piano.
Liste alors. La rhapsodie hongroise, en fait, elle utilise la gamme mineure, mais d'une manière, enfin, en fait, c'est la vibe du morceau en lui-même, quoi, qui était hyper justement aussi transcendante du début à la fin. Et quand j'avais composé Dead in Your Pocket, c'était vraiment. C'était vraiment de ce morceau-là que je m'étais inspiré de loin, quoi. Mais en fait, pour le riff de guitare, principalement.
Les chromatismes.
Je sais pas, ouais, j'aimais bien les chromatismes de la gamme mineure qu'il y avait. Et en fait, j'écoutais beaucoup ce morceau-là à ce moment-là. Et j'avais... Il y avait une espèce de vibe commune entre le morceau que j'étais en train de faire et celui-ci. C'est comme si j'avais voulu un petit peu, de loin, reproduire la sensation que j'avais sur la Rhapsodie hongroise, que j'avais voulu le retranscrire sur le morceau d'And In Your Pocket avec ce riff de guitare qu'avait le mineur mélancolique, on va dire de manière un peu évidente, puisque la gamme mineure, elle est souvent employée comme ça, mais... Je me suis quand même bien amusé à triturer un petit peu la ligne de basse et la ligne de guitare. C'est-à-dire qu'avant la fin du morceau, la basse reprend le riff de guitare. Et du coup, ça soutient plus de la même manière le riff, mais il y a un espèce de jeu harmonique comme ça qui opère et j'aimais bien finir là-dessus. Quoi.
C'est, y a pas vraiment de solo, c'est un morceau où... dans lequel il n'y a pas de refrain chanté.
Bon, en fait, voilà, le refrain, c'est ton riff, ouais.
Ouais, le refrain, c'est instrumental et le motif de guitare rappelle un peu ce truc-là, pour le coup. Quelle transition.
C'est pas mal après Liszt. C'est Blink-182, All the Small Things. Moi, je les ai vus, je pense, 5 fois en live, un truc comme ça.
Fatboy. Est-ce qu'on peut dire influence commune, là, pour le coup
tout simple. Bah, plus par, la génération de toi et de moi plutôt que celle d'Eliott, je pense.
Moi, pas tellement. On peut passer à travers.
Tout influence commune des adultes.
Ouais. Mais, des adultes. Des grandes personnes dans cette salle.
Et oui, malheureusement.
Mais en fait, Blink, j'en ai écouté... En fait, je suis venu à la musique un peu avec ce groupe quand j'avais 17-18 ans. Et mais après, on a découlé toutes les influences. Je suis très vite passé à Rancid ou les groupes comme ça. En fait, ce qu'on retrouve par exemple sur un morceau comme Flash Sideways, c'est presque les influences que Blink ont eues, les influences de Blink aussi en fait. C'est-à-dire que Tom, il s'est tellement influencé de groupes comme les Cure ou comme d'autres à l'époque ou Descendants ou les trucs comme ça que indirectement en fait on peut sonner un peu comme ça aussi et après y a rien de volontaire mais en fait la manière de composer ce morceau elle est évidente, elle est un peu pop en fait. Flash il est un peu pop et du coup ça donne vite un aspect ça peut vite tirer sur le pop punk
ça à mon avis ça transpire aussi un peu tout ça parce que c'est des... Je pense que c'est pas une influence consciente, dans le sens où je pense qu'on a découvert ça à une époque de la vie où tu construis un peu ton identité musicale, tout ça, et ça reste forcément quelque part et ça transparaît après dans ce que tu fais. Je pense qu'on s'inspire plus du tout de ça consciemment aujourd'hui, mais que forcément il y a quelque chose que...
Et surtout que je continue d'écouter ce que fait Tom DeLonge avec Angels and Airwaves, j'aime vraiment bien. Parce que justement il a pris la tangente lui, il s'est pas ringardisé dans le pop punk dégueulasse que Travis essaye de sortir sur son label justement que je trouve un peu dégueu
comme Machine Gun Kelly par exemple.
Ouais, c'est vrai que c'est amusant deux minutes mais pour le coup Tom il a cherché beaucoup plus de choses avec Angels and Airwaves même si bon on sent la grosse patte californienne derrière mais tu vois, il y a pas très longtemps justement, on a fitté sur la nouvelle compile de Unknown Pleasure Records, qui est un hommage à Christian Death. Et en fait, moi j'ai chanté un morceau qui s'appelle Romeo's Distress. Et en fait, le morceau, enfin c'est du Blink en fait, sauf que ça a été fait dans les années 80, tu vois. Mais c'est juste que, enfin c'est pas du Blink justement. Blink c'est ces morceaux-là en fait. Et suivant comment c'est produit, suivant le son que tu le mets. En fait, les accords sont tout majeurs, la mélodie est toute majeure, la vibe est complètement punk rock, mais en fait, tu te retrouves sur exactement la même chose. Monsieur Bowie ?
Mais oui.
C'est David.
C'est pas ce que j'écoute le plus de Bowie, par exemple.
Ouais, moi non plus. Et c'est ça qui est drôle, hein. En plus, cet album, c'est vraiment pas l'un de mes préférés.
En fait, le concept est intéressant, après, j'y reviens assez peu musicalement.
Moi, j'ai bien aimé donner le nom, ce nom-là, parce que c'était les Diamond Dogs de son histoire qui était intéressant, qui était inspiré des Garçons Sauvages, et j'aimais bien, c'était un espèce de... Tu sais, on en avait parlé au début du groupe, d'une bande d'ados là, qui sème la terreur dans la ville. Mais par contre, l'album en lui-même, c'est un opéra rock en fait. Le côté scénique avec David Bowie, on l'a pas... si tu veux, on veut pas le théâtraliser autant que lui, je pense. On en avait parlé au début du groupe, est-ce qu'on se crée carrément des costumes, des personnages et tout. Et en fait, justement, ça donne un côté trop glam ou trop mise en scène qu'on voulait pas forcément. Nous, on voulait essayer de trouver un espèce d'entre-deux où on voulait s'accomplir personnellement, enfin en tant que groupe et aussi en tant qu'individu dans le groupe. De ce fait, on essaye d'être cohérents tous les quatre, mais par contre, il n'y a rien qui est... Y a rien qui est écrit, quoi. Je veux dire, autant dans les gestuels que dans les costumes non plus. On est là, on...
Il y a le sens rentrer dans un personnage sans forcément que ça passe par des artifices. C'est vraiment juste un état sur scène.
Mais le sens de, du spectacle, ouais, ça c'est sûr qu'on l'a, quoi.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, Mylène Farmer, il faut creuser. Quand tu sors des tubes et que tu t'écoutes vraiment, il y a des trucs excellents.
Ouais.
Et ça m'a intrigué à mort et je ne l'ai pas du tout fait. Mais du coup, j'ai vachement
tu sais que je l'ai fait il y a deux jours.
C'est vrai.
Mais malgré moi, en fait, j'ai écouté le Marquis de Sade. Et en fait, le Marquis de Sade, donc, qui a écrit, Sodome et tout ça.
Ouais.
En fait, il a énormément influencé. En fait, il a énormément influencé donc plein de paroliers, et notamment dans les morceaux de Mylène Farmer, en fait.
Ah ouais.
Bah ouais, le côté hyper sexuel. C'est même à outrance, quoi. Tu vois, c'est.
En tout cas, apparemment, ouais. Ça va très loin dans la référence littéraire. C'est hyper pointu et tout.
Ouais.
Et vraiment de.
Mais ouais. Du coup, ça m'a.
De l'air et tout ça.
Ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais Mylène Farmer, il y a peut-être un truc à creuser quand même.
Parce que moi, j'avais à fond d'a priori et tout. Toujours un peu, mais ça m'a intrigué, quoi. Il faudrait vraiment que je creuse.
En fait, c'est intriguant en soi déjà que cette femme, elle est.
Mais elle traverse le temps.
Une légende,
ouais,
quoi.
Ouais. Puis ouais, c'est ça. On voit jamais de promo Mylène Farmer.
Ben non.
Ça remplit, mais pas besoin de faire de pub.
Ça dingue.
Mais je réécoutais. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un clip qui me terrorisait. C'était Désenchanté, c'est ça. Et en fait, j'étais flippé de ce clip quand j'étais petit. En fait, je l'ai rematé l'autre fois. Et en fait, c'est vraiment cinématographique, tu vois. C'est
je l'ai pas en tête.
Hyper bien tourné et tout. Et je me suis dit, putain, en écoutant, je me suis dit, putain, mais en fait, même la prod, elle est folle. Tu sais, les drums, c'est les grosses drums 80s,
ouais,
avec la snare qui tâche.
En termes de prod, de clip et tout.
T'as vraiment envie d'essayer de produire un morceau comme ça pour voir si avec toi, ça sonne bien.
C'était hyper novateur. Enfin, il y avait vraiment une envie de...
Bah, gros synthé, grosse drum, et ouais, c'était hyper dans son époque.
T'as un son, t'as une texture, enfin, tu le reconnais direct.
Ouais. 3000 couches de reverb sur la voix,
Bien bel échantillon de musique du diable.
C'était bien ça.
On va aller en enfer avec tout ça.
Mais c'est drôle, dans tous les trucs qu'on a entendus là, je vois souvent ces groupes-là catégorisés en post-punk.
Ouais.
Et j'ai l'impression que le post-punk, c'est devenu une espèce de fourre-tout.
Ouais, c'est terrible.
En fait,
ça,
c'est, hein. c'est juste du rock 2023, quoi. C'est juste. C'est le terme qui est utilisé en ce moment, donc il faut se greffer dessus. Après.
Limite, il rassure, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ouais. Si on devait catégoriser nous, il y a le. Nous, on dit Dystopian Wave.
Ouais.
Non.
On essaie de trouver un nom. Non, c'est pas nous qui l'avons trouvé.
Oui,
non,
on l'a réglé.
C'était à Anvers, ouais. la programmatrice du Café Cabron, qui avait dit Dystopian Wave.
C'était sur la fiche.
C'est super.
Je pense qu'on ça nous est arrivé de dire post-punk, et ça nous arrive toujours de dire post-punk pour Diamond Dog. Après, si on doit un peu plus préciser.
Enfin, de plus en plus, on met punk ou new wave, tu vois. Mais...
Ouais,
new wave. Mais Dystopian Wave, ouais.
Wave, c'est bien parce qu'il y a un vrai truc New Wave, Cold Wave qui vient jouer dans les sons. Ce qui peut, je pense, nous inspirer dans les groupes, notamment pas mal des groupes qu'on a entendus juste avant, c'est que c'est des groupes qui n'ont pas forcément besoin d'être catégorisés dans un style, tellement leur identité musicale est forte et tellement les groupes sont reconnaissables sans forcément avoir besoin d'être catalogués dans quoi que ce soit. Quoi. Mm. Ça nous inspire pas mal. Je pense que c'est quelque chose qu'on recherche. En termes d'identité sonore, quoi. Why do you look that way? That's what you said to me. I'm an anomaly. Still in the park that day, I sat alone in waves, and I just gave you more and more.
Léon Zitrone, répondez-moi ici, je vous appelle de Carcassonne.